France Inter.
Sur Inter, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. 15 jours après une violente agression homophobe en plein Paris, la victime témoigne dans ce journal. L'incident lié au voile dans un lycée parisien, après la démission du proviseur menacé de mort, l'État va porter plainte contre la jeune fille pour dénonciation calomnieuse. Smartphone et conséquences, journée spéciale ce jeudi sur Inter. Les enfants peuvent être accros dès le plus jeune âge. Reportage dans ce journal dans une unité hospitalière pour sevrer les petits des écrans. Les Américains sont fous du nageur français Léon Marchand. Il sera ce jeudi en finale des compétitions universitaires à Indianapolis.
Et au micro de Sonia De Villers aujourd'hui, Caroline Fourest, la directrice du journal Franc-Tireur.
France Inter.
Son témoignage est édifiant. Laurence, la victime d'une violente agression homophobe, se confie à France Inter.
Les faits remontent au 15 mars. Un homme est violemment agressé dans un bar du 10e arrondissement de Paris. Des coups, des insultes, une agression filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Plusieurs associations vont manifester ce soir, place de la République à Paris. La victime n'aurait jamais imaginé vivre en France une telle attaque en raison de son orientation sexuelle. Morgane Auclin-Refait l'a rencontrée.
Amos a encore l'œil rouge et tuméfié. Cette Miennois de 20 ans dit avoir été dans un bar parisien avec des amis quand il a été agressé.
Je ne sais pas si on parlait à haute voix, si ça les gênait. J'ai vu un homme se lever de la table. Il m'a dit « Les gays, vous ne pouvez pas s'asseoir ici. »
S'en sont suivis des jets de bière et de bouteilles, selon lui. Puis dehors, des coups de poing de plusieurs personnes filmées par il ne sait qui.
Si je regarde, ça se plaire, je regarde même pas. J'avais des cheveux, j'ai coupé des cheveux pour que les gens ne puissent pas me reconnaître. Vivre ça en France, en plein Paris.
Il se pensait protégé ici, après avoir quitté il y a un an son pays natal, la République démocratique du Congo.
Je suis parti à cause de ça, à cause des injustices, des discriminations, au sein d'abord de la famille. Et je l'ai revu encore ici en France.
Aujourd'hui, l'association SOS Homophobie l'accompagne et il est loin d'être le seul, explique son co-président Joël Demier.
Les chiffres des agressions physiques notamment, des agressions verbales ne faiblissent pas. Nous constatons en 2022 une agression physique tous les deux jours à l'encontre d'une personne LGBT dans notre pays. Et cette réalité, elle est extrêmement grave et préoccupante.
L'association réclame donc plus de moyens humains et financiers pour la DILCRA, chargée de lutter contre la haine anti-LGBT, ainsi que de meilleures formations pour les policiers chargés de recueillir les plaintes quand la parole se libère.
Morgane Auclin-Refait. Les suites de la démission du proviseur du lycée parisien Maurice Ravel, menacé de mort après une altercation avec une élève pour qu'elle enlève son voile. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé que l'État allait porter plainte contre la jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Elle avait accusé le proviseur de l'avoir violentée après son refus d'enlever son voile. Gabriel Attal hier soir sur TF1.
J'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Ça me permet de rappeler que l'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ses agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires. Je rappelle que cet entrisme, que ces coups de boutoir ont fait récemment deux victimes dans la famille de l'éducation nationale, Dominique Bernard et Samuel Paty. Quand il y a eu des contestations qui ont été faites à leur mémoire pendant les temps d'hommage qui avaient été organisés dans les établissements scolaires, j'étais alors ministre de l'éducation nationale, j'avais dit que je ne laisserais rien passer. Toutes ces contestations ont fait l'objet de saisines de la justice ou de sanctions au sein des établissements avec des exclusions qui ont été prononcées. Il ne faut rien laisser passer et je ne laisserai jamais rien passer en la matière.
Et toujours hier soir sur TF1, le Premier ministre en quête d'économie pour réduire le dérapage du déficit public a confirmé quelques pistes. Il souhaite réduire la durée d'indemnisation des chômeurs, une réforme qui pourrait être appliquée dès l'automne prochain. Une nouvelle étape vers l'autonomie de la Corse, le projet constitutionnel a été adopté la nuit dernière à une large majorité par l'Assemblée insulaire. Il reste désormais l'étape du Parlement national où le projet est loin de faire l'unanimité. À gauche, qui sera candidat en 2027? Mélenchon, Ruffin ou bien Autain? Clémentine Autain est en effet depuis quelque temps citée comme une potentielle candidate. Mais la nouveauté, c'est que la députée insoumise, considérée comme frondeuse au sein de son mouvement, ex-proche de Jean-Luc Mélenchon, mise à l'écart de la direction, est réellement en train d'œuvrer en coulisses en vue de la présidentielle. Elle a d'ailleurs réuni il y a un mois une une soixantaine de personnes dans une salle du 19e arrondissement parisien. Et on ne l'apprend que maintenant, Claire Flochel.
Le secret a effectivement été bien gardé. Dans l'entourage de Clémentine Autain, on se félicite de la discrétion des participants. Alors qui sont-ils? Selon nos informations, ce sont quelques insoumis, ceux qu'on appelle les frondeurs, comme Alexis Corbière ou Daniel Simonet, même si contactés, eux n'ont pas voulu en dire quoi que ce soit. Il y avait aussi quelques députés socialistes et communistes, des maires d'Île-de-France et des membres de la société civile. Une réunion pourrait faire quoi? Eh bien, pour rassembler la gauche, Clémentine Autain a déclaré qu'elle se préparait pour être une possibilité en 2027, selon un participant qui estime qu'il n'y avait aucune place pour le doute. La première intéressée, elle ne nie pas cette réunion, mais ne veut pas en dire plus. « Je travaille et depuis longtemps, nous explique la députée, je fais plein de réunions, mais je n'ai pas envie pour le moment de communiquer là-dessus. On est dans le temps de la campagne européenne. » Clémentine Autain a en tout cas reçu des encouragements, ceux d'une ancienne garde des Sceaux, brièvement candidate en 2022, qui semble la préférée à François Ruffin. « Elle me plaît, elle a pris de l'envergure et ne se laisse pas faire », a déclaré il y a quelques jours Christiane Taubira.
Claire Flochel, nouvelle étape de l'enquête sur la mystérieuse disparition du petit Émile. 2 ans et demi, c'était en juillet dernier. 17 personnes, membres de la famille, des voisins, des témoins, sont convoqués aujourd'hui pour une mise en situation dans le hameau du Haut-Vernay. L'idée est de retracer, minute par minute, les déplacements et les événements de toutes ces personnes présentes l'après-midi de la disparition de l'enfant dans ce village des Alpes de Haute-Provence. Comment dompter nos téléphones portables? Journée spéciale sur France Inter, 17 ans après le lancement par Apple du tout premier smartphone. L'appareil allait révolutionner nos vies personnelles et professionnelles. Mais après le recul de toutes ces années, quelles sont les conséquences sur notre santé, à commencer sur celle des enfants? Car l'addiction aux écrans démarre très tôt. Illustration à l'hôpital Jean Verdier de Bondy, en région parisienne. Une consultation y est ouverte depuis 5 ans et Victor Delande a rencontré des parents dont l'enfant était devenu dépendant aux écrans.
Il y a quelques mois, Ruben et sa femme s'inquiètent. Leur fils de 2 ans, Yaron, a des retards de langage.
Il était en boucle sur des comptines qu'il avait vues sur YouTube. Il n'avait pas forcément d'interaction avec nous. Il n'était pas forcément très réactif. Il répondait pas forcément à son prénom. Il y avait beaucoup, beaucoup de cris. Et il dormait pas. Trouble du sommeil. Il se réveillait toutes les 2-3 heures.
Yaron passait plus de 5 heures par jour sur les écrans et ce, dès la naissance. Du jour au lendemain, ses parents décident de lui enlever tablette et télévision. Un sevrage très dur pour l'enfant.
C'était des cris hystériques. C'était je dors pas, je me réveille, je crie. Et voilà, c'est comme quelqu'un à qui on donne pas finalement sa dose pour de la drogue, quoi. Et donc on le sentait en manque, clairement.
Depuis, Yaron va mieux et commence à prononcer quelques mots. Il est loin pourtant d'être le seul enfant accro aux écrans.
Je vois des enfants de plus en plus jeunes, malheureusement, parce qu'avant ils avaient moins de 11 ans, moins de 6 ans, et maintenant c'est des petits-enfants d'entre 2 et 4 ans.
Sylvie Diozica est pédiatre et membre du collectif Surexposition Écran. Elle conseille à chaque fois un arrêt radical des écrans et guide les parents.
Réapprendre à l'adulte responsable que votre bébé, votre enfant va apprendre à parler parce que vous allez être disponible, jouer avec lui et que c'est le jeu et le faire semblant, ainsi de suite, qui va permettre à l'enfant d'apprendre à parler, c'est essentiel.
Elle a déjà vu 150 enfants dans sa consultation et lance un appel au pouvoir public sur cette dépendance de plus en plus grande des enfants aux écrans.
Victor Delande, une journée spéciale, donc smartphone et conséquences déclinées tout au long de la journée sur Inter avec des reportages, des témoignages de Français et des solutions pour mettre les écrans à distance. À l'étranger, on le sait, l'Ukraine manque d'armes et de munitions, mais pas seulement. Selon l'état-major de l'armée ukrainienne, le pays aurait besoin de milliers de soldats supplémentaires pour que la situation se débloque. Une loi destinée à mobiliser des centaines de milliers de soldats est en préparation, car les longues files d'attente devant les centres de recrutement de l'armée ne sont plus qu'un lointain souvenir. D'après les États-Unis, 70 000 soldats ukrainiens auraient trouvé la mort. Une guerre qui dure, une ligne de front qui bouge relativement peu, des soldats épuisés, il faut recruter d'urgence. L'envoyé spécial de France Inter à Lviv, Camille Magnard, s'est rendu dans un centre de recrutement nouvelle génération.
Le centre n'a ouvert qu'il y a un mois. La peinture kaki sent encore le neuf, mais Halina Psikorska, sa responsable, est convaincue qu'il faut recruter des soldats comme on recrute en entreprise.
La raison d'être de ce centre, c'est le constat que la guerre continue et elle ne va pas finir rapidement. Les Ukrainiens doivent comprendre qu'ils seront tous impliqués d'une manière ou d'une autre dans les forces armées d'Ukraine.
Ici, tous les recruteurs sont des civils pour lever la barrière psychologique qui, selon Halina, retient de nombreux Ukrainiens de s'engager après 2 ans de guerre.
Quand des candidats qui n'ont pas d'expérience militaire viennent nous voir, ils sont plus à l'aise parce qu'on est des civils, on a les mêmes craintes qu'eux. On n'est pas là pour les enrôler de force.
Ce centre, c'est un peu le pôle emploi de l'armée. Et avec la conseillère, Natalia, on regarde les offres d'emploi militaire listées en ligne.
Regardez, il y a des offres pour des conducteurs de moto, chauffeurs mécaniciens pour les chars. On peut trouver selon votre spécialisation, vos compétences.
Pour le moment, 300 personnes ont poussé la porte du nouveau centre. Et l'armée ukrainienne estime avoir besoin de 400 000 nouveaux soldats cette année. Halina et Natalia le savent, leur démarche ne remplacera pas une mobilisation plus massive et obligatoire.
L'envoyé spécial de France Inter à Lviv, Camille Magnard. Quand un Toulousain devient en 3 ans la coqueluche du public, des médias américains et de ses collègues nageurs, Léon Marchand entrera ce jeudi dans le vif du sujet des finales universitaires d'Indianapolis, un événement incontournable et très suivi. Il va nager ce soir sa première course individuelle sur le 500 yards, car on compte en yards dans cette compétition. Depuis son installation outre-Atlantique, le nageur de 21 ans a changé de statut. Ses victoires, ses records ont fait de lui une véritable star au pays où la natation et reine. Reportage à Indianapolis de Jérôme Val.
Marchand Madness. La folie Marchand, le nouveau surnom donné à ses finales universitaires après les exploits répétés du français.
Léon Marchand.
Une preuve de plus qu'il a séduit l'Amérique, Tommy Breed nage pour l'université du Kentucky.
Everybody knows who he is, so...
Tout le monde le connaît, il est tellement beau à voir nager. Tout est super bien accompli chez lui et on doit s'en inspirer.
Le Toulousain se sait scruté, chacun de ses gestes est examiné, il suscite même une forme d'admiration, comme chez Grant Bochanski qui porte les couleurs du Missouri.
C'est tellement incroyable de voir les barrières qu'il brise et qu'il continuera à briser, espérons-le. Il rend notre sport amusant à regarder.
Car Léon Marchand ne fait pas que gagner, témoigne un autre nageur du Missouri, Ty Spillane.
C'est un gars génial, il fait partie de ceux qui révolutionnent la natation, notamment les parties sous l'eau. Nous sommes impatients de le voir.
Sous la bannière étoilée accrochée au mur de la piscine, les comparaisons vont vite, comme chez cet entraîneur de l'Université de Floride.
La seule chose que je peux dire pour le décrire, c'est que c'est le nouveau Michael Phelps.
Michael Phelps, la légende de ce sport, Léon Marchand, de son côté, assure préférer l'anonymat. Eh bien, c'est raté, alors que ses finales sont retransmises en direct sur la grande chaîne sportive ESPN.
Jérôme Val, football, l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais s'est imposée 4-1 face aux Portugaises du Benfica à l'occasion du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Lyon peut potentiellement défier le PSG au tour suivant. Le club de la capitale jouera sa qualification pour le dernier carré ce soir face aux Suédoises de Haken.
Merci Laurence Thomas. À suivre, Yael Gauss, Dominique Sonia Deville.